Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi après-midi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors en ces temps agités, et c'est un doux euphémisme, évidemment nous avons besoin de zénitude, on a besoin de se sentir tranquille. Et pour vous aider peut-être sur cette quête de bien-être, de sérénité et de zénitude, nous avons eu envie de traiter un thème intéressant. Qu'apportent les mantras et quelle relation entre les mantras, la méditation et le bien-être intérieur ? Et pour vous accompagner et surtout vous éclairer sur toutes ces questions, nous avons un grand spécialiste français de la question, Olivier Vinet, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour Irène.
Évidemment, l'émission est co-animée par ma co-animatrice de grand talent, Irène Cazenave, hypnothérapeute. Bonjour Irène.
Bonjour.
Et l'émission, comme toutes les semaines, est produite et surtout réalisée par Julien. Coucou Julien à la régie. Vous savez que c'est une émission interactive, hein, donc vous savez que vous pouvez appeler Dynamique Radio. Olivier, Irène et moi, nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est parti pour un beau voyage au pays des mantras. Olivier Vinet, rebonjour.
Rebonjour.
On va commencer très simplement, Olivier. Qui êtes-vous pour les auditeurs de Pour vivre heureux, Yvon Cotier ? Présentez-vous.
La question est large, vaste. Donc, je pourrais dire tout simplement que ce qui me définit le plus aujourd'hui, c'est le parcours spirituel que j'ai accompli depuis peut-être 25 ans et qui m'a amené aujourd'hui à... avoir un groupe de mantras que j'anime sur Paris et qui est le fruit d'un long parcours spirituel sur lequel on reviendra peut-être au cours de cette émission. Pardon.
D'accord.
J'ajouterais peut-être que ce qui m'a défini aussi beaucoup, c'est que je travaille en tant que traducteur d'ouvrages spirituels. J'en ai traduit 110 pour la Maison Très Daniel. Et puis aussi, j'ai travaillé en tant qu'animateur radio précédemment.
Oui, et peut-être, Irène, d'autres parcours antécédents d'Olivier Vinet ?
Je ne sais pas, mais si vous aviez... Moi, la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui vous a amené à la méditation ? Comment vous avez fait ce chemin-là pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être sont un peu réfractaires ou réticents par rapport à la méditation ? Comment vous y êtes arrivé ?
C'est parti d'un sentiment d'incomplétude. C'était vraiment le tout début. En 1997, j'étais alors en faculté à la Sorbonne. Et je sentais que j'étais incomplet. Il y avait quelque chose qui manquait à l'intérieur, une grande part de moi qui n'était pas là.
Vous étiez étudiant en quoi ?
J'ai fait des études de langue, bien sûr.
En langue,
forcément.
D'accord. Ouais.
Et donc, à l'époque, je me suis demandé comment est-ce que je vais faire pour retrouver cette partie de moi que je sentais incomplète, que je ne sentais pas là, absente. Et donc, j'ai commencé d'abord par un parcours en psychanalyse. Donc, en tant qu'étudiant, on pouvait faire de la psychanalyse. Et ça a été très salvateur. Et à la suite de mes études, ça s'est arrêté. Et j'ai décidé de faire un grand parcours à l'étranger. Je suis parti un an et demi au total sur plusieurs voyages au Népal et en Inde. Et ça a été déclenché par une rencontre qui a été celle du Dalai Lama. En l'an 2000, lorsque j'étais à l'armée, j'ai fait partie des dernières personnes à faire l'armée en tant que service obligatoire. Et donc c'est ça qui a été le point de départ de ce grand voyage qui ensuite m'a emmené... en Inde, au Népal.
Elle s'est passée où, votre rencontre avec le Dalai Lama ?
Elle s'est passée près de Montpellier.
D'accord.
Il était venu en l'an 2000, il y avait une tente dans la campagne, très étrange, très étonnant, hein. 10 000 personnes en dessous, dont Yannick Noah qui était là à l'époque, et puis un enseignement d'une grande profondeur.
Voilà. Donc ça vous avait beaucoup touché.
Ça m'avait beaucoup touché. Aujourd'hui, je sais que le Dalai Lama a beaucoup de... Voilà,
oui, enfin, on ne va pas rentrer dans des affaires comme ça.
Non, mais c'est intéressant de dire que malgré tout... il y a quelque chose de très touchant et de très profond. C'est
surtout ça
qui m'intéressait, c'était la profondeur.
Après, voilà, Léon dit les choses comme ça. On a tous entendu, chers amis auditeurs, différentes choses là-dessus, mais on est là pour parler mantra, pour parler méditation. C'est très bien que vous nous dites que vous y étiez touché. C'était une rencontre importante de votre vie, Olivier.
Un vrai déclic.
Indéniablement. Alors, il y a une autre rencontre importante de votre vie, et vous allez nous faire découvrir cet homme que personnellement, moi, je ne connaissais pas, Irène peut-être, mais c'est Andreas Mamet. Mm-hmm. Donc, l'auteur d'un livre qui s'appelle « Graines d'éveil » que vous nous avez apporté pour occidentaux désorientés. J'aime bien le terme.
Tout à fait.
Désorientés. Alors, vous rencontrez Andreas à quelle occasion et qu'est-ce qui se passe avec Andreas Mamet ?
Alors, Andrea, c'est le fruit d'un autre voyage, cette fois-ci à l'autre bout du monde. Donc, c'est plus en Asie, mais c'est aux États-Unis. Et à l'époque, dans mon parcours spirituel, j'avais entendu parler de l'intra-terre, du Mont Shasta, qui était très en vogue parce qu'on disait qu'il y avait des extraterrestres qui venaient, des choses très étonnantes. Donc, je me suis dit... Alors, surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'était une montagne qui était considérée comme sacrée par les Indiens. Donc, d'accord. Ça, c'était déjà plus sérieux.
C'est dans quel
et
état
Et ça se trouve en Californie du Nord.
C'est en Californie du Nord, d'accord.
Voilà, okay. Au-dessus de San Francisco. Et donc, moi, j'ai été invité par une amie à aller aux États-Unis pour faire le tour des États-Unis, puisque Ama, à l'époque, venait aux États-Unis et elle commençait à Seattle. Donc, une amie qui habitait à côté de Seattle m'a invité là-bas.
Tout le monde ne connaît pas Ama, donc qui est Ama?
Alors, Ama, on dit que c'est une incarnation de la mère divine. Alors, c'est une sage indienne qui a un sacré palmarès, puisqu'on dit qu'elle a pris dans les bras 40 millions de personnes à l'heure actuelle en 30-40 ans de, entre guillemets, carrière. Elle parcourt le monde, alors moins maintenant depuis le Covid, mais ceci étant, elle parcourait le monde 8 mois sur 12 chaque année. Et elle prenait des gens sans arrêt dans les bras. Les fois où j'y assistais, on pouvait voir à Paris, par exemple, 20 000 personnes qu'elle prenait dans les bras sur 3 jours.
Alors, chers amis auditeurs, Ama, j'ai beaucoup d'amis comme vous, Irène, hein, qui ont été pris dans les bras par Ama. Il faut dire aussi qu'Ama, c'est devenu un énorme business, hein, c'est Euro Disneyland.
Oui,
avant d'être pris
oui.
dans les bras d'Ama, il faut attendre 6 heures, parfois si ce n'est 12. Tu achètes des porte-clés, des préservatifs, à tout à l'effigie d'Ama. Donc voilà, il y a Ama et Ama, j'ai envie de dire. Hein, voilà.
Certes, après, ça reste des expériences qui sont assez extraordinaires.
Oui, oui.
Il y a un film de Claude Lelouch qui d'ailleurs parle très de cette expérience-là. C'est Un plus une qui est un très très beau film.
Ouais. Magnifique.
Donc il y a vraiment aussi, j'entends moi, que c'est des rencontres et quelque chose de l'ordre aussi du ressenti. Il se passe quelque chose, vous avez même parlé de déclic dans votre processus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pour les gens justement qui ne connaissent pas ce qu'est la méditation, comment on arrive à ces ressentis-là, comment on peut s'en approcher et vous parliez tout à l'heure des mantras, c'est quoi un mantra?
Olivier Vinet.
Alors, un mantra, qu'est-ce que c'est? Déjà, si on prend la racine, c'est du sanskrit. Mantra, c'est ment. En sanskrit, ça veut dire le mental. On voit la proximité avec le français, ment, mental. Et tra. Alors, tra, il y a deux origines probables. La première, ce serait protéger. Donc, ce qui protège le mental. Et la deuxième, ce serait un instrument. Donc, un instrument pour le mental, pour aider le mental. Mmh. Donc, quoi qu'il en soit, un mantra, c'est une formule qui, dans son sens premier, vient donc de la tradition hindouiste, mais aussi de la tradition bouddhiste qui, par la suite, a utilisé les mantras pour apaiser le mental. Mais ça, c'est une première couche. On peut travailler sur d'autres couches, sur les émotions, sur le côté
spirituel.
Peut-être
qu'on va voir ça au cours de l'émission.
Allez, volontiers.
Et allons-y tout doucement. Je vous propose de passer une première page musicale et n'hésitez pas à nous appeler, c'est passionnant. Olivier Vinet est là pour répondre à toutes vos questions.
Qui se prennent à mon filet de voix, pauvres pêcheurs. Oh, fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sautes d'humeur, même si je n'en fallait rester zen, soyons
zen, restons zen, nous dit notre amie Zazie. Elle est pas très zen en ce moment dans The Voice, hein. Ça shoot un peu avec Mika. Écoutez, Irène, elle vous a choqué au début.
Ah oui, moi, il y a des
sons. Ça vous a pas plu, les larcènes du début.
Ouais, moi, j'aime les sons très.
Eh ben, c'est pas grave,
moi.
On va dire à Zazie qu'elle se calme un peu. Vous êtes très nombreux à appeler Dynamique Radio pour vivre heureux, vivre coaché. Vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions à Olivier Vinet au sujet des mantras et de la méditation. On a un premier radio coaché.
Christophe Médici, radio coaché.
Bonsoir, Yasmine.
Oui, bonsoir.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur Dynamique Radio. Je crois que vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes avec votre coach.
C'est vrai, je suis avec Anne.
Eh bien, bonsoir,
bonsoir.
Anne aussi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous savez que notre invité central, c'est Olivier Vinet.
Oui.
Oui. On sait que vous êtes aussi vous-même des co-autrices d'un livre qui s'appelle S'épanouir grâce au mantra, quelque chose comme ça, hein. C'est ça, hein.
Complètement, grâce au mantra, bravo. Voilà. Et c'est Olivier, effectivement, qui est phare en ce domaine. Et
alors, justement, on aimerait bien savoir ce que vous voudriez poser comme question à Olivier Vinet. Puis après, on viendra à parler de vos livres un petit peu, d'accord ? Ok ? Qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Qu'est-ce que vous aimeriez demander à Olivier ?
Voilà, alors, Olivier, en fait, il a énormément de pratiques et j'aimerais savoir ce que ça lui a apporté sur la longueur, c'est-à-dire sur la durée, parce qu'on peut répéter un mantra une seule fois. Mais je ne crois pas que ça puisse vraiment apporter quelque chose. Est-ce qu'il peut nous dire le fait de répéter longtemps, plusieurs jours, sur 40 jours, sur des retraites, sur des... Je ne sais pas, qu'est-ce que ça apporte de le faire plus d'une seule fois ?
Olivier Vinet.
Alors, on peut prendre une analogie. Si vous aimez le piano, vous ne connaissez pas le piano et vous avez envie de découvrir le piano, vous faites 5 minutes de piano. Est-ce que vous allez devenir Mozart ?
Il y a peu de chance.
Il y a peu de chance, on est d'accord. Donc ça nécessite pour ça
très faible.
Tout un parcours, effectivement. Et moi, c'est ça qui m'a plu, qui m'a accroché, qui a été une aspiration véritable pour moi. Répondre à cette question, ça pourrait prendre très longtemps parce que les bienfaits des mantras dans ma vie, c'était une bénédiction telle. Mais en gros, je pourrais dire que la chose la plus importante que ça m'a apporté, c'est à l'intérieur du calme.
Donc déjà du calme.
De la sérénité. Et quand je parle de sérénité et de calme, ça veut dire que le mental, de manière générale, est là de manière pratique. S'il y a à régler des choses concernant le quotidien, oui, il est là. Mais globalement, en dehors de ça, il ne m'embête pas le mental.
Irène, comment ça vous parle à tout ce que dit Olivier ? Le fait que la première réponse, c'est vraiment du calme, apaiser le mental, un peu comme un lac qui se calmerait.
Et ça me parle dans le sens où quand on est en état de stress, on n'a pas toutes ses capacités. On est vraiment très limité en état de stress et on se retrouve avec le cerveau reptilien, avec grosso modo trois types de réactions qui sont fuir, faire le mort ou combattre, pas forcément les réactions les plus appropriées. Et dès qu'on retrouve du calme et de la sérénité, on retrouve tout son champ d'action et tout son champ des possibles. Alors ça peut être une de ces trois réactions aussi, l'une de ces trois est la plus judicieuse, mais ça peut être beaucoup d'autres réactions aussi, ou pas de réaction du tout. Voilà.
Et vous Yasmine alors, ça vous parle comment la réponse d'Olivier Vinet au sujet de l'apport ? En fait, ce que j'avais entendu Yasmine dans ce que vous disiez, et évitablement je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs, donc vous êtes la porte-parole de beaucoup d'auditeurs, toute notre gratitude Yasmine. Qui parle de mantra, quand on est des béotiens comme nous, et pas comme Olivier Vinet, pense répétition. Hein. On pense aux bouddhistes qu'on voit, ou d'autres types de pratiques religieuses, on les voit bien qu'il ne peut pas y avoir mantra sans répétition. C'était bien le cœur de votre question, n'est-ce pas Yasmine, hein, c'est ça, hein.
Oui, exactement.
Et Olivier
c'est
nous dit que ça
apporte
du calme. Ouais, répéter.
Et alors, c'est notamment, ça va imprégner le subconscient.
Oui,
à un certain niveau même qu'on ne peut peut-être même pas complètement appréhender nous-mêmes.
Oui.
Et
vous, alors, dans votre livre, vous parlez de ça, dans votre livre ? Vous parlez, c'est un des axes de votre livre, à toutes les deux ? Racontez-nous, Yasmine.
Oui, sur le pouvoir du son, sur le cerveau et l'esprit, on en parle un petit peu dans un chapitre qui a été développé, notamment le son primaire, le premier son qui est le Om.
Ouais.
Et on dit que c'est le son de l'univers. Donc voilà, on le présente comme étant le mantra originel. Et on dit que ça, en fait, il ressemble au son qui a été enregistré par la NASA, c'est-à-dire dans l'univers.
Olivier Vinet, le Om serait donc le son primaire, un son tout premier
Alors, moi, je ne peux pas y répondre parce que je n'étais
J'étais
pas là.
Pas là jour-là.
J'étais pas là jour-là, exactement. Bon, en tout cas, pas sous
J'étais
cette
pas
forme.
Présent.
Mais tout ce que je peux dire, c'est le fruit de ma pratique, c'est que le home est un son extrêmement puissant et extrêmement, justement, calmant et tranquillisant, mais à un niveau bien plus profond que le calme mental. Ça va bien au-delà de ça.
Ça apaise même les cellules ?
Globalement, ça crée un état de sérénité à tous les niveaux dans le corps, dans le cœur, partout.
Tous les organes.
C'est comme les mantras en général, d'ailleurs.
D'accord.
Comme les mantras. Mais on pourra revenir dessus. Mais les mantras, c'est ça qui est intéressant avec les mantras, des particularités, c'est-à-dire des bienfaits spécifiques.
Ah oui, alors justement, on va parler de plusieurs mantras. Restez avec nous, c'est passionnant parce qu'on va même en écouter. Olivier pourra nous faire une démonstration, nous expliquer quel est le sens de certains de ces mantras. On a vraiment très envie de ça. Yasmine et Anne. Anne veut peut-être la. On peut avoir Anne aussi, non ? On peut dire bonjour à Anne ?
Oui, bonjour. Enchantée déjà d'être
Enchantée, Anne, de vous accueillir dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés, la 453e depuis 2015. Vous savez qu'avant, on était sur d'autres radios. On a changé au moins 3 fois de radio, n'est-ce pas, Irène ?
Oui.
On est des nomades. Vous aimez bien le titre de notre émission, Pour Vivre Heureux, Vivons Coachés ?
Ah oui, énormément.
C'est protégé à l'INPI.
Moi, je l'aime beaucoup à titre personnel.
Vous l'aimez bien, Olivier ?
J'aime beaucoup.
Le jour où j'ai trouvé ça, c'était une fulgurance.
Ah oui.
Alors, racontez-nous, puisque vous nous avez parlé gentiment de ces co-autrices, n'est-ce pas, Olivier ?
Oui.
Parlez-nous de votre livre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans votre livre, Anne ?
Alors vraiment, le plus important pour nous, c'était vraiment qu'il soit accessible vraiment pour le plus grand nombre de personnes.
Oui.
On a voulu le présenter les mantras d'une façon simple, ludique, représentée d'ailleurs avec beaucoup d'illustrations très colorées, très joyeuses, pour vraiment que le lecteur puisse en faire l'expérience de façon immédiate dans son quotidien. On voulait quelque chose de concret. C'est pour ça qu'on a présenté aussi 4 grands thèmes importants.
Oui.
Ces thèmes sont le cœur, la santé, la prospérité, la protection. On a
D'accord.
pensé que c'était vraiment les thèmes...
Même la prospérité. Vous parlez de la prospérité.
Oui, oui.
Au sens de travail de l'abondance.
Oui, entre autres, mais de façon aussi... Oui, c'est vrai que l'illustration que tu as utilisée, Anne, c'est des dollars qui fusent. Donc, c'est vrai que ça apporte l'abondance financière, mais ça peut être à tous les niveaux.
D'accord, oui, parce que tout peut amener à de l'abondance, une abondance d'amour, abondance de... je ne pensais pas uniquement, ce qui sort de la corne d'abondance, c'est aussi des fruits, vous savez, hein, parfois. Donc voilà, la métaphore à la base, c'est la corne d'abondance, les filles. Hein, donc de toute façon, voilà. Donc Olivier, vous aimez beaucoup le livre hein, et elle pratique, je suppose, une des deux pratiques dans votre groupe, c'est
Alors,
ça ?
Je tiens à préciser qu'il y a une belle synchronicité, c'est que le livre, on ne l'a pas encore dit, il est sorti juste hier.
Oh mon Dieu, c'est un bébé à la mamelle.
C'est un tout petit
c'est
bébé.
C'est un baptême.
Mais oui.
C'est vrai.
Les filles, c'est
vrai.
Un baptême.
Donc, bravo à Anne et à
longue
Yasmine.
Longue vie à votre livre. Longue vie à votre livre. J'en ai écrit 20, moi.
Waouh.
Le 20e, c'était découvrir sa mission de vie.
Ça fait une belle famille.
Grâce à la mélothérapie. Bah, en tout cas, écoutez, hein, vous viendrez un jour.
Avec grand plaisir.
Vous viendrez un jour nous présenter votre livre, comme ça, Olivier, vous nous fait connaître. Olivier nous laissera vos coordonnées, et puis on les a déjà d'ailleurs, puisque
avec
vous avez appelé
plaisir.
La région.
Ah oui, on aimerait beaucoup.
Et vous viendrez en plateau, d'accord les filles ? On vous embrasse,
plaisir.
À bientôt. Merci d'avoir participé à l'émission.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Mickey, pas 6D, pas 9D, mais 3D. 3D nous dit, il faut que tu respires. Mais parfois, c'est des respirations. 3, 6, 9, chers amis auditeurs, tout le monde la connaît, celle-là. Hein. Vous êtes toujours avec Christophe Midici et Irène Cazenave dans Pour vivre heureux, ils vont coacher. Vous êtes toujours avec notre invité central, Olivier Vinet, immense spécialiste français devant l'éternel des mantras et de la méditation. Et vous êtes très nombreux à vouloir lui poser des questions. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio, dans Pour vivre heureux, vivons coaché. Vous savez que notre invité central, c'est Olivier Vinet. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question au sujet des mantras à Olivier, Audrey?
Alors, bonjour Olivier déjà.
Bonjour Audrey.
bonjour à vous. Alors, moi, c'est plutôt, au-delà d'une question, c'est plutôt un témoignage.
Oui.
Par rapport à ces mantras. J'ai rencontré les mantras il y a plus de 10 ans, c'était en 2013. Complètement par hasard, en fait, je sortais d'une grave intervention chirurgicale. J'avais été plus de 3 mois à la maison sans vraiment en sortir. Mmh. Et la première sortie que j'ai faite, en fait, c'était dans le cadre des journées du pardon. Mmh. Et là, je vois dans le programme mantra de l'amour. Ah, je me dis, ah ça, je pratique la sophrologie et la méditation, donc je me dis, ah, je connais pas les mantras, j'en ai entendu parler. Ben, allons
tester les mantras de l'amour.
Allons tester les mantras.
Alors attendez, donc... on va voir un petit peu 10 secondes, Audrey, et on vous redonne la parole quelques minutes après. Hein. Olivier Vinet. Dans vos pratiques d'atelier, donc je suppose, on va le voir au cours de l'émission, tout type de mantra, on est d'accord. Audrey nous parle des mantras alors moi je suis complètement béotien, du mantra de l'amour. Qu'est-ce que c'est que ce mantra de l'amour?
Alors déjà, on peut dire qu'effectivement, des mantras, il en existe des milliers. Mais on nous dit même que dans les Védas, il y en a qui sont un écrit majeur dans l'hindouisme, il y aurait 10 000 mantras.
Ah purée.
Donc moi, j'en connais beaucoup moins que ça, donc je ne peux pas parler de tous les mantras.
Les mantras de l'amour.
Mais en revanche, il existe un mantra de l'amour en sanskrit qui est Aham. Préma. C'est très simple. Aham, ça ressemble à l'anglais I am, je suis. Et prima, ça veut dire l'amour. Mais l'amour dans son sens le plus inconditionnel.
L'amour au sens
donc,
des six échelles de
l'amour.
On
répète dans cette langue qui est une langue sacrée,
Aham
prima, et on s'aperçoit que l'énergie de l'amour, petit à petit, commence à se développer à l'intérieur.
Alors, Audrey, vous êtes donc allée en voyant cette journée du pardon pratiquer le mantra de l'amour ?
Voilà, donc en fait, on se retrouve à une cinquantaine de personnes, voilà, chanter des mantras, donc plusieurs mantras différents. Et moi, à l'époque, j'étais physiquement épuisée. Hein, ouais. Et donc, on chante pendant 2 heures et je sors au bout de 2 heures avec une énergie que j'avais pas depuis, je dirais même des années.
Une patate. Vous étiez prêt à faire l'Everest.
C'est ça.
En 2 heures, c'était la potion magique de la sélection. Irène Cazenave, c'est quoi cet effet là que peut avoir
Justement, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que. Parce qu'il y a quelque chose d'individuel et d'un ressenti personnel. Et puis, il y a aussi le groupe. Et j'imagine 50 personnes qui prononce les mêmes mots avec la vibration très forte de 50 personnes aussi. Est-ce que les mantras, on les pratique qu'en groupe ? Est-ce qu'on peut les pratiquer en individuel ? Et quelle différence dans les deux cadres ? Quelle différence entre la pratique en groupe et la pratique individuelle ?
Olivier Vinet.
Excellente question. Et je pourrais reprendre l'analogie du piano, c'est-à-dire que le piano, on l'apprend avec son professeur. C'est le moment principal où l'apprentissage est le plus rapide. Et ça continue aussi par les gammes à la maison. Donc, on en revient aussi dans les mantras à cela, à savoir qu'il y a la pratique à la maison qui permet d'assurer une continuité entre les moments de pratique de groupe, pour les personnes qui se sentent appelées par la pratique de groupe, qui est le grand moment où, effectivement, le groupe crée quelque chose de très porteur. La technique que l'on utilise dans le cercle des mantras est une technique où on se met en cercle et on utilise la géométrie sacrée. Et le cercle, dans le cercle, l'endroit le plus puissant, c'est au milieu. On met une personne au milieu de ce cercle avec des chants de mantra à l'extérieur par tous les participants, au milieu une ou deux personnes, et là, vous partez en méditation en moins de deux, en un rien de temps. L'effet méditatif est démultiplié.
Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'espace-temps sacré sans évidemment une ritualisation. Moi qui suis d'une autre obédience spirituelle, j'adore ce proverbe chinois, chers amis auditeurs, qui dit « Il existe plusieurs voies pour arriver en haut de la montagne, mais arrivé en haut, tous contemplent la même lune ». Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la dimension spirituelle, là, aujourd'hui on parle des mantras, Irène sur X émission, d'accord, on a fait de tout en développement personnel, développement relationnel, mais c'est très intéressant, la richesse de notre émission pour nos éditeurs, c'est d'avoir tout son de cloche. Et surtout, je pense qu'Olivier sera d'accord avec toi, et nous et vous aussi, Audrey, ce qu'il faut trouver, c'est quelque chose qui nous corresponde, n'est-ce pas, Audrey ? Qui nous énergétise et nous fasse du bien à nous. Et certaines choses font du bien à certains et pas à d'autres. Audrey, vous avez donc continué après cette journée des pardons, on est bien d'accord ? Vous avez été tombé sous le charme.
Évidemment, évidemment.
Olivier nous disait, excusez-moi de vous couper, hein, mais Olivier nous disait en off, vous avez même écrit un livre.
Est-ce qu'il est paru ? Je ne sais pas, je me suis peut-être un peu avancé. Audrey, sur un très beau projet, mais bon, je me suis peut-être un peu avancé.
Il est en cours d'écriture.
Il est toujours en cours. Alors, il n'est pas sur les mantras. Hein. Sur une autre, sur un autre plan. Mais oui,
il est en cours.
C'est vrai que ça.
On vous invitera quand il sera fait, d'accord.
Je vois qu'Audrey n'en parle pas trop, mais son livre est tout à fait intéressant. Très intéressant.
Parce que quel est le thème ? Vous voulez le déflorer ou pas déflorer au moins le thème ou pas ?
Le thème, on va dire, c'est les états de conscience modifiés.
Les états modifiés de conscience. D'accord.
Voilà, plus particulièrement la connexion avec l'invisible de l'angle de la santé mentale.
D'accord. Vous êtes dans la santé mentale ? Vous êtes dans la médecine ?
Oui.
Vous êtes dans...
Je suis infirmière en santé mentale.
Infirmière psy. Voilà. En HP ? En EPSM ?
Alors, je suis plus. De santé mentale. je suis plus infirmière.
D'accord. Mais vous l'avez été pendant un temps.
Voilà, je l'avais.
Ok. En tout cas, bravo pour Olivier. Irène, pour les auditeurs aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle, vous qui êtes hypnothérapeute, les états modifiés de conscience ?
Les états modifiés de conscience, il y a plusieurs choses. D'ailleurs, on doit retrouver aussi avec ces mantras et avec la méditation, l'état dans lequel on est en méditation, c'est un état modifié de conscience. Ça peut être de se sentir plus connecté au monde. C'est un état, l'état modifié de conscience, pardon, c'est un état naturel qu'on retrouve de toute façon à certains moments quand on va être très concentré sur quelque chose ou très attentif.
Ou même quand on divague, quand on est en train de conduire.
Quand on est en train de faire des choses de façon automatique et on laisse nos pensées divaguer, c'est une légère modification de l'état de conscience qui est marquée très souvent par une distorsion du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience du temps qui passe.
C'est ça.
On est vraiment dans l'ici et maintenant. Mmh. Ce qui est finalement assez rare dans nos vies.
Oui, ce que vous dites là, c'est un peu ce que disait Bachelard, souvenir de Kang, c'était la différence entre le temps vertical et le temps horizontal. Quand on est en état modifié de conscience, on se retrouve dans ce qu'on appelle le truc de l'instant, hein, de Bachelard, c'est le présent vertical. Et ça, on fait effectivement quelque chose qui est bien, bien distinct. En tout cas, Olivier voulait dire quelque chose là-dessus, sur ces différents temps, sur l'état modifié de conscience.
Ouais. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la science a trouvé des marqueurs qui permettent de quantifier ces états de conscience, ou en tout cas de les marquer à l'intérieur du corps, les ondes cérébrales. Donc vous avez les ondes cérébrales en Hertz qui ont été établies, et on commence par les ondes bêta, qui sont jusqu'à à peu près, enfin en tout cas jusqu'à 12 Hertz. 12 Hertz et au-dessus, c'est la conscience de veille. C'est les ondes bêta, c'est l'état dans lequel on est actuellement. Ensuite, on diminue, on se rapproche petit à petit de zéro. Donc de 12 à 8, on a les ondes alpha. Et là, on commence à rentrer dans les premiers états méditatifs. On en parlait tout à l'heure, imagination, rêverie, etc. Puis ensuite, on descend dans les ondes θ, entre 8 et 4 Hertz. Et là, on se rapproche des états méditatifs les plus profonds. Et ensuite, quand on passe entre 4 et pas 0, parce que sinon 0, il n'y a plus d'activité cérébrale, on n'est plus là. Mais pas loin de zéro, on est dans le sommeil profond. Mmh. Donc ça a été quantifié,
voilà,
c'est ça qui
les différents états de système nerveux, de
conscience auxquels on peut accéder avec la méditation, en hypnose, en sophrologie.
Mais même peut-être au théâtre, ou en chantant, ou en s'excitant,
oui.
En soirée,
oui, oui, oui.
Dans la liesse, on peut être en état. Bon, voilà. En tout cas, c'est sûr, c'est que plus on descend en bêta, en alpha, en theta et tout ça, plus évidemment, il y a une espèce d'accession, j'ai envie de dire, à d'autres mondes, à d'autres univers intérieurs. Peut-être en voir d'autres choses et des portes s'ouvrent. Aubry, on va vous embrasser, on vous remercie.
Oui.
On vous attend, Audrey, hein, pour l'écriture de votre livre.
Ben, il n'y a pas de souci.
Au travail. Merci d'avoir participé à Vivant Coaché. Au revoir, Audrey.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Thank you. la fantastique et immense Deva Premal, très très grande chanteuse de mantra. Comment s'appelle, Olivier, ce mantra magnifique?
Alors, c'est un très beau mantra, merci de l'avoir choisi. C'est le Gayatri Mantra, c'est un mantra très connu parce qu'il est très ancien. On dit que c'est plusieurs milliers d'années. J'ai lu le chiffre de 3000 ans, j'ai lu le chiffre de 5000 ans, j'en sais rien, encore une fois, j'y étais pas. Ceci étant, c'est un mantra qu'on considère comme le père des mantras. Et c'est un mantra qui est associé dans la tradition hindouiste au soleil, c'est-à-dire à toutes les qualités, toutes les caractéristiques associées à la lumière. Donc c'est un mantra qu'on chante pour être confiant, intelligent, être rayonnant, être charismatique, pour travailler en tout cas ces qualités-là. Évidemment, il faut toujours un certain temps de pratique pour obtenir un résultat, parfois court, parfois plus long, ce temps, en fonction de notre passé, de nos antécédents. Mais en tout cas, un très très beau mantra est tout à fait magnifiquement interprété par Deva Premal.
Ouais, c'est très beau. Vous nous disiez que Deva Premal, chaque année, venait à Paris, au Grand Rex.
Au Grand Rex, elle plein fait à craquer. Ouais.
Donc, vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions et y voir plus clair au sujet du mantra. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Alain.
Oui, Alain, bonjour.
Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Coaché. Alain, quelle question aimeriez-vous poser à Olivier Vinet, notre invité central?
Je voulais savoir depuis combien de temps il pratiquait cette discipline et qu'est-ce qu'on pouvait en quelque sorte soigner avec les mantras, quoi.
Ah, très intéressant. Ça fait combien d'années donc, Olivier?
Vinet. Bonjour Alain, c'est une très bonne question. Ça me ramène à une vingtaine d'années en arrière. J'ai commencé en 2004 avec la rencontre d'Andreas Mamet, dont on a commencé à parler tout à l'heure,
et qui
a été le fondateur de ce groupe. Donc évidemment, hommage à lui, quoi.
Et donc après, la seconde question d'Alain, c'est en fait, pour quel type de pathologie, le mot peut-être est trop fort.
Oui,
mais
on va peut-être éviter l'exercice légal de la médecine, mais on va dire qu'est-ce que ça apporte
comme bienfait.
Alors, ce qui est intéressant avec les mantras, c'est qu'on dit qu'à toute situation dans la vie correspond à un mantra qui peut vous aider.
Ah oui. Par exemple, vous avez une rupture amoureuse.
Oui, complètement. Le mantra de l'amour, par exemple, peut nous aider à recréer l'amour en nous et à nous sentir plus complets et donc ne plus être dans la dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Donc retrouver cet état d'amour en nous-mêmes, première chose. Mais on a aussi des mantras beaucoup plus vastes qui traitent les obstacles, donc en supprimer les obstacles. Et ça, on a tous des obstacles dans la vie. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on aurait tous intérêt à pratiquer, en tout cas pour ceux qui se sentent appelés. Vous avez des mantras après plus spécifiques, des mantras qui traitent, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de l'abondance, donc des choses matérielles.
Oui, on en parlait avec les jeunes
dames. L'abondance financière, mais d'autres formes d'abondance. Et puis on a des mantras un peu plus spirituels, donc des mantras pour la paix, des mantras pour l'amour, des mantras pour des choses, des qualités.
Et il y a des mantras collectifs peut-être aussi pour, un groupe ou une...
Alors, mantra collectif, je ne sais pas. Il y a eu des expériences collectives. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant d'en parler, donc je ne sais pas si ça peut être l'occasion.
Allez-y.
Mais il y a eu des très très belles expériences. Donnez en 1993. Il y a un article du New York Times qu'on peut encore retrouver sur Internet qui parle d'un rassemblement dans le cadre de la méditation transcendantale de 4000 participants. Quel était leur but? Ils se sont rassemblés dans un gymnase à Washington et le but, c'était d'essayer d'agir, d'influencer les statistiques de la ville, les statistiques de criminalité, d'accidents, etc. Et donc, ils se sont rassemblés à 4000 pendant 6 semaines et le résultat, disent-ils, c'est qu'il y aurait eu 20% de diminution des divers taux de criminalité, d'accidents,
etc. Ce qui est énorme.
Faudrait le faire dans toutes les villes.
Mais il y a eu encore mieux. En 2003... Il y a un auteur, chanteur américain du nom de James Twyman qui, lui, a rassemblé toute sa communauté, qui est très vaste, pour faire un projet de paix au Proche-Orient. Et lui, donc, s'est rendu sur place en Israël, dans un village qui incarnait la paix, avec 300 méditants chevronnés. Et il a demandé à tout son réseau partout dans le monde, il a estimé que c'était des millions de personnes qui, finalement, méditaient, donc de chanter des mantras, de méditer, etc., sur une journée. Et ils étaient partis avec des statisticiens pour voir l'impact sur le pays. Et le retour qu'ils ont eu de l'armée, donc c'est l'armée israélienne qui leur a fourni des chiffres, c'est que le lendemain, les taux de violence, quels qu'ils soient, notamment les tirs qui étaient faits normalement sur les installations militaires, ont chuté de 50%. Et d'autres taux d'autres formes de violence ont chuté jusqu'à 100%. Ça a duré un jour. Après, c'est reparti plus normal.
Bon, Irène, que toutes ces statistiques, elles vous inspirent quoi ?
Elle m'inspire que pourquoi on ne fait pas plus ça, parce que finalement ça ne coûte pas grand-chose. Alors ça demande une mobilisation, mais ça m'inspire que ça donne aussi beaucoup d'espoir sur là où on est le monde aujourd'hui. Quand on... C'était quoi ? C'était pour occidentaux désorientés, ou là où on est désorienté, on se dit... Pourquoi pas ? Moi, c'est ça, ça ouvre.
Oui, alors après, moi, je vais mettre des bémols. C'est-à-dire que j'ai été, moi, chers amis auditeurs, en troisième cycle dans le groupe de recherche sur l'éducation avec Krishnamurti, peut-être avec le seul enseignant de toute l'université française à faire rentrer Yidu Krishnamurti à l'université française, donc René Barbier, c'était pas rien de faire rentrer Yidu Krishnamurti. Et moi, je suis toujours éberlué, parce qu'évidemment, tout ça, chers amis auditeurs, moi, je crois qu'il y a des belles fleurs dans tous les jardins, toutes les civilisations du monde. Ce sera Volins Nolins toujours des civilisations de l'ailleurs. Hein. C'est l'Inde. L'Inde, c'est pas l'Occident. On est d'accord ? Voilà. Après, c'est formidable parce que ça parle à certains. On a un grand... vous qui êtes un occidental, vous êtes allé vous nourrir là-bas, Olivier. On dit que parfois en Inde, c'est un voyage dont on revient plus du tout le même. On peut revenir complètement transformé. Il y en a qui sont restés collés aussi, il faut dire la vérité, hein, complètement scotchés. Il y a même des gens qui, après 68, ont pris la décision même d'y vivre. Je pense évidemment à Auroville. Hein, Auroville existe toujours, à côté de Pondichéry. Bon, c'est plus du tout l'Auroville d'au début, mais Auroville, c'était qui avait fondé Auroville ? Sade Prem et Mère. Voilà. Bon, des gens très, très, très spirituellement avancés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est génial, mais Volins Nolins, vous le disiez, occidentaux désorientés, on est en 2024, on a une espèce de dictateur qui n'a rien à revendre à Staline, on est d'accord ? Vous voyez de qui je veux parler, qui vient d'ailleurs de tuer il y a quelques jours encore un homme extraordinaire, et on va dédier cette émission à cet homme-là, d'accord ? Vous verrez, chers amis auditeurs, que mon YouTube va beaucoup changer dans quelques semaines, d'ailleurs, par rapport à ce que je suis en train de faire là. Je pense évidemment à Navalny. Hein. On est en 2024, on a l'impression d'être en 1972 par rapport à Israël et la Palestine. Bref, nous sommes toujours, comme je le dis dans certains de mes livres, au Moyen-Âge relationnel. Donc c'est extraordinaire que nous, vous, l'amour, on est là pour l'amener. Mais qu'est-ce qu'il va falloir pour que l'humanité se transforme complètement ? Parce que franchement, ce que d'autres humains font à d'êtres humains, vous savez, je pense à ce que disait un jour un académicien français qui s'appelait Delacroix, qui dit « l'être humain est capable du meilleur comme du pire, et c'est parfois dans le pire qu'il est le meilleur ». On va vous dire merci Alain, on vous embrasse, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
C'est quoi ça ?
Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre Max, il est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Les emmène par-delà les labos, chevaux chez les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyage, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Hervé Christiani, il est libre, Max. En tout cas, c'est sûr que nous, nous aimons cheminer vers la liberté. Car comme disait si joliment Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. Nous avons un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle, enchantée. Vous êtes la bienvenue sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour vivre heureux, vivons coaché. Emmanuel, vous savez que notre invité central, c'est Olivier Vinet.
Oui.
Vous êtes là. Bon, est-ce que vous aimeriez lui poser comme question?
J'aimerais savoir comment il a découvert les mantras.
Ah, bonne question. Olivier Vinet.
Alors, on avait commencé à en parler tout à l'heure, et donc c'est effectivement une très bonne question. Ça remonte donc il y a à peu près une vingtaine d'années, en 2005, lorsque je me suis rendu aux États-Unis. Donc j'étais effectivement venu à l'initiative d'une amie pour voir Ama. Et au cours de mon chemin, parce que pour voir Ama et faire la tournée des États-Unis, on fait tout le tour des États-Unis, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un mois et demi de voyage, c'est un très très grand voyage. Sauf qu'en chemin, je me suis arrêté lors de la deuxième étape au fameux Mont Shasta, qui est un site très connu du nord de la Californie, parce que c'est une montagne qui est considérée comme sacrée par les Amérindiens. Et moi, j'avais été intéressé par les expériences qu'on racontait beaucoup à l'époque, donc je m'étais dit, je vais m'arrêter là et puis regarder ce qui se passe vraiment, me faire mon propre avis. Et c'est là que j'ai rencontré Andreas Mamet, qui habitait là-bas, et les choses ont commencé à partir de là.
Ah, Andreas Mamet vivait à côté du Mont Shasta.
Il vivait au Mont Shasta.
Et parce qu'il y a quoi?
Il y a une petite ville étonnante qui fait 5 000 ou 10 000 habitants. Et dans cette ville, vous avez une bibliothèque spirituelle, vous avez 3 boutiques bio, vous avez 3 boutiques de cristaux. Vous avez un théâtre pour les représentations spirituelles. Vous avez une pléthore de thérapeutes. Enfin, c'est une ville vraiment...
Hautement spirituelle.
Hautement spirituelle.
Une espèce d'ashram américain.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Un ciel ouvert. Et vous pratiquez les mantras, Emmanuel?
Ah oui, tout à fait.
Racontez-nous.
En fait, je participe au cercle de mantras d'Olivier.
D'accord. Et depuis combien de temps?
Depuis plusieurs mois maintenant.
D'accord. Et vous sentez un bienfait dans votre quotidien là-dessus, dans votre vie?
Ah oui. Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à assister au cercle, je dormais presque plus. Mmh. Et j'essayais en fait de me sevrer d'un anxiolytique. Mmh. Et avec l'aide du cercle de chant, je dirais 2 mois et demi à peu près, j'ai retrouvé le sommeil. Là, aujourd'hui, je dors très bien.
Super. Et donc, vous avez arrêté la benzodiazépine?
Non, ce n'était pas ce genre de médicament-là.
Je veux dire, les anxiolytiques. Et ça vous a permis de remplacer... Ma question, c'était ça. Les mantras, les anxiolytiques par les mantras?
Oui, tout à fait. Mais pas seulement. Parce que... Oui. Mais ça m'aide aussi dans plein d'autres aspects, notamment à rester calme. Et...
Bien sûr, il le disait Olivier en début d'émission. Vous vous sentez plus calme? Vous vous sentez plus calme?
Oui, beaucoup plus calme et beaucoup plus équilibré aussi.
Formidable. Irène Cazenave, que de bienfaits, n'est-ce pas?
Oui. Et d'ailleurs, la méditation, alors pas cette forme-là, parce qu'il y a d'autres formes qui ont été, j'ai envie de dire, reconnues même par le corps. Qui sont utilisés notamment à Sainte-Anne avec Christophe André, puis d'autres personnes, c'est d'autres formes peut-être.
Oui, la mindfulness, méditation de pleine conscience. Ouais.
Qui est utilisée pour le traitement de la dépression, qui est utilisée par des psychiatres. Hein.
Oui.
Donc les bienfaits sont
reconnus. Il y a eu beaucoup d'études
reconnues.
Qui ont été montrées. Oui. Et c'est un des bras droits du Dalai Lama, Mathieu Ricard, fait les bienfaits de ça, Irène.
Oui, et puis, du coup, j'étais coupée dans plein dans ma phrase, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Vous disiez que ça avait été travaillé
Ça faisait aussi partie de la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales, où on utilise la méditation toujours de pleine conscience, et par des médecins, pour le coup, médecins psychiatres, avec des effets... Prouvé
scientifiquement.
Ouais. Et là, le témoignage donc, sur,
d'Emmanuel,
d'Emmanuel renvoie aussi
corrobore à ça. Ouais. Olivier Vinet, vous devez être content. Vous buvez du petit lait, là. Une des praticiennes de votre cercle dit que ça lui fait un bien fou, Emmanuel.
Oui, en même temps, moi, ça fait 20 ans que je le vis au quotidien et ces effets-là sont toujours extraordinaires à voir parce que c'est très mystérieux au final. On chante des mantras, on ne fait rien de matériel, on ne prend pas un médicament, je ne sais pas quoi. Et il y a quelque chose qui se passe, qui dépasse totalement notre entendement. Mais il y a quelque chose qui se passe et ça se répète. Depuis 20 ans que j'ai fait ces cercles, j'en ai fait 650 de cercles avec Andreas. Au total, j'ai compté, ça fait à peu près 10 000 heures de méditation. Sans compter tous les stages, etc. Donc les mantras,
on
les pratiques.
On est bien savoir plus. On est très curieux, Irène et moi. Comment ça se passe une séance? D'abord, elle dure combien de temps? Est-ce que vous choisissez un thème? Et autour de ce thème, il y aura les mantras de ce thème par soir? Expliquez-nous, ça dure combien de temps une soirée?
Ça dure 3 heures.
Oui.
Le but, c'est de faire une soirée qui corresponde aux personnes qui sont là.
D'accord.
Donc chacune vient avec son bagage, ses difficultés du moment.
Est-ce qu'il y a un partage au début?
Il y a un partage au début dans lequel chacun dit: moi, j'ai besoin de ça en ce moment, moi, il y a ça qui ne va pas. On fait notre petit menu. Alors on va prendre ceci, ce mantra-là, celui-ci. On choisit un mantra pour chaque personne ou deux, et chaque personne va passer à un moment ou à un autre de la soirée au milieu, comme je disais tout à l'heure, qui est l'endroit où on part en méditation encore plus facilement que quand on chante à l'extérieur. Donc c'est aussi un cercle de solidarité, finalement une chaîne de solidarité, parce que tout le monde qui est à l'extérieur chante pour soi certes, pour le groupe aussi, et pour la personne qui est au milieu. On est tous des maillons de cette chaîne qui nous entraidons à traverser nos difficultés et à nous élever.
D'accord. Donc, on voit mieux maintenant, chers auditeurs, comment se vit, merci Olivier, une soirée de mantra. Le timing, vous ne nous l'avez pas trop donné. C'est de 2 heures, 3 heures ?
3 heures.
3 heures.
3 heures, d'accord. Bon, pendant 3 heures, il y a un petit côté quand même, je suis obligé de le dire, thérapie de groupe.
Oui, on l'a dit en
même temps.
Franchement,
inévitablement, oui. Olivier, c'est thérapène venant du grec, thérapène soin, c'est de la thérapie de groupe. Hein,
Oui, et c'est aussi le...
Et c'est très bien.
D'une part, c'est très très bien et ça permet peut-être à des gens qui ont été soit reviennent de la thérapie, soit sont passés par là, soit il y a des gens qui sont réfractaires aussi à la thérapie et qui peuvent se soigner ou autrement aussi. Et de se reconnecter à l'autre, c'est quand même un des mots les pires de notre siècle, d'être des isolé. Individus comme ça, isolés, et d'oublier qu'on fait partie d'un groupe alors qu'on reparler de la semaine dernière, mais on reste des animaux avec un instinct grégaire, on a besoin du groupe.
Non, mais surtout, n'oublions jamais ce beau mot. C'est très juste ce que vous dites, Irène, et on va même aller plus loin, même, chers auditeurs. Ici, on est sur une radio libre. Univers. Hein, si vous coupez le mot univers, nous sommes univers. Il y a du 1, c'est l'unus mundum, des grands sages de la mystique et même des alchimistes. Il n'y a pas que du 2, chers auditeurs de la vie, il y a du 1. Et dans une époque tellement où mon ex-prof Edgar Morin, on va faire un coucou Edgar, qui a près de 101 ans, disait qu'il y a un sentiment de déliaison des êtres humains les uns avec les autres, dans les entreprises, dans les familles, dans n'importe quoi. Ben, ça fait du bien d'entendre qu'il y a des pratiques comme celle-ci, comme les nôtres, comme nos stages, comme nos formations, comme vos thérapies, comme l'hypnothérapie, qui montrent aux humains qu'il y a du 1. Parce que 2, Volins-Nolins, ce n'est pas que du duo. 2, Volins-Nolins, ce n'est pas que du couple. 2, ça peut être la guerre. 2. Et c'est bien le problème. Heureusement qu'il y a du 1. On va vous embrasser. Emmanuel, merci de nous avoir fait un retour sur votre pratique.
Je vous en prie.
Et
merci.
Bonne continuité, bonne continuation. À très bientôt.
Ok, au revoir.
Au revoir. Mantra, un autre, on avait dit, on a des milliers, hein. Vous pouvez nous en dire deux mots de celui-là, Olivier Vinet?
Ah, c'est un très très beau mantra, encore interprété par Deva Premal, vous aurez peut-être reconnu sa voix enchanteresse. C'était le Om Mani Padme Hum, un mantra que probablement les auditeurs, en tout cas ceux qui sont versés dans les mantras, connaissent. C'est le mantra le plus connu dans le bouddhisme tibétain. C'est un mantra qu'on entend partout quand on se déplace en Népal, en Inde. Moi je l'entendais partout, c'était presque à saturation. Mais c'est un mantra qui est un mantra de compassion.
D'accord.
Voilà, c'est un mantra qui travaille sur la compassion.
Compassion. Eh bien, écoutez, vous êtes très nombreux à en vouloir en savoir plus sur les mantras. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonsoir, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Vous savez que notre invité central, c'est Olivier Vinet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir au sujet des mantras?
Alors, bonjour à vos invités, à votre invité, pardon, et bonjour aux auditeurs. Alors, moi, j'ai une question à poser. J'aimerais connaître un petit peu là où les différences qui peuvent exister sur le plan énergétique entre la méditation de pleine conscience qui se pratique de manière formelle en silence et la méditation chantée en mantra.
Très intéressant, on en parlait un peu tout à l'heure parce que Irène faisait référence aux travaux de Christophe André et puis les pratiques maintenant dans certains HP, pour les dépressifs profonds notamment. C'est une bonne question d'Emmanuel. Olivier Vinet.
C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas parler de la méditation de pleine conscience parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc peut-être qu'Irène pourra compléter mon propos. Néanmoins, en ce qui concerne les mantras, il y a effectivement, Emmanuel le disait, un phénomène énergétique qui se produit. C'est-à-dire qu'on dit que les mantras ont été trouvés par des personnes mystiques qui étaient en état de méditation profonde, donc en état de conscience modifiée, comme on le disait tout à l'heure, et que le mantra a surgi intuitivement et que ce mantra représente la vibration de l'état correspondant. Donc ça représente une énergie. Et plus on chante un mantra, plus il y a cet état énergétique, ce champ énergétique qui se crée et qui fait qu'on se sent de plus en plus, de mieux en mieux en réalité. Dans le corps, les contractions commencent à s'atténuer. Mentalement, en règle générale, ce n'est pas toujours le cas, le mental peut s'emballer, mais en règle générale, le mental s'apaise. Il y a une détente profonde qui s'installe. Et il y a effectivement ce phénomène énergétique, Emmanuel a raison d'en parler, qui se met en place.
Emmanuel, Irène, peut-être.
Oui, si je comprends bien. En fait, moi, j'ai une question. C'est que le mantra, il permet de nous mettre ou de nous emmener vers l'objectif qui est un certain état, donc d'apaisement. Si j'ai bien compris.
D'apaisement, c'est une des possibilités.
Oui, d'apaisement ou d'être dans l'amour, la compassion, la lumière, comme on a vu tout à l'heure. Alors que la méditation de pleine conscience, c'est justement de constater et de s'arrêter sur ce qu'est là. Enfin, c'est pas s'arrêter d'ailleurs, parce qu'on est en mouvement constant, mais c'est d'être vraiment dans le moment présent et d'être OK avec l'état présent. Là, si je comprends bien, si on peut faire le jeu de cette différence, c'est plus d'amener vers un autre état que celui présent.
Olivier Vinet.
Oui et non. Parce que la notion d'instant présent, je pense qu'elle doit être commune à peu près à toutes les formes de méditation. Alors, je ne les connais pas, encore une fois, je m'avance, mais c'est tellement essentiel. Donc oui, c'est effectivement ce qui se passe avec la méditation de la pleine conscience et avec les mantras. Les mantras enlèvent tous les résidus, tout ce qui se met autour de l'instant présent et qui nous empêche d'être vraiment dedans. C'est-à-dire les pensées récurrentes,
parasites,
c'est-à-dire les contractions dans le corps, les douleurs, etc. Donc ça atténue toutes ces difficultés qui fait qu'on se sent naturellement plus présent, plus disponible pour ce qui se passe, plus dans l'instant présent. C'est un des effets des mantras, effectivement.
Ça vous parle comment, Emmanuel? D'abord, je suppose, enfin, vous allez nous le dire, vous êtes une praticienne, vous, des mantras?
Oui, je pratique les deux, en fait, la méditation de pleine conscience et la méditation.
Alors, vous pourriez peut-être nous donner votre éclairage à vous entre quels sont les deux, alors, la différence entre les mantras et la mindfulness?
Alors moi, c'est très particulier ce que je vais vous dire, mais en méditation mantra, je visualise énormément.
Oui.
Donc sur un plan énergétique, j'ai pas du tout le même niveau que sur une méditation de pleine conscience où je vais énergétiquement aller vers le mieux, mais je visualise pas en méditation de pleine conscience, alors qu'en méditation mantra, j'ai beaucoup de visualisation.
Est-ce que, justement, Olivier, il faisait référence? Parce qu'en mantra, il y a une chose plus importante, c'est aussi qu'il y a la voix qui porte quelque chose.
Je ne sais pas l'analyser. Et quelque part, je ne veux pas l'analyser.
Ouais. Oui, Christophe, c'est tout à fait ça. Vous avez tout à fait dit ce qu'il fallait. La spécificité des mantras, c'est qu'on utilise la voix. Et la voix crée effectivement une vibration. Et dans les méditations, la plupart des méditations, on utilise l'attention comme support méditatif. Donc, dans la méditation de la pleine conscience, donc c'est très bien, c'est agissant, c'est effectivement efficace. Mais par contre, pour une personne qui est fatiguée, qui a une attention qui est assez faible ou limitée, ou alors dans des moments où on n'est pas très attentif, ça limite l'impact de la méditation. Dans la méditation des mantras, on utilise la voix. C'est-à-dire que même si votre attention est défaillante, temporairement ou plus à long terme, il y a un effet qui est produit par le son de la voix. Et c'est d'ailleurs pareil pour les méditations telles que le Qigong, le Tai Chi Chuan et d'autres qui sont des méditations qui utilisent le corps.
Alors, il y a des gens, le corps qui est le support. Il y a des gens qui, moi je l'ai déjà fait ça plusieurs fois aussi, et puis c'est vrai que je suis très passionné par tout ce qu'on appelle le cerveau quantique. J'ai pas mal d'amis qui ont écrit des livres sur la question, hein, notamment le docteur Christian Bourrit, puis j'ai des amis américains, et puis j'en parle dans certains de mes 20 livres. Je suis passionné par tout ce qui est comment s'aligner au vortex, à son propre vortex, et je sais que ce qui me parle à moi, moins, beaucoup plus que la mindfulness, c'est les méditations guidées. C'est-à-dire, moi, quand quelqu'un me parle, je pense à Esther Hicks, par exemple, évidemment, la femme de feu, Jerry Hicks, et quand elle fait des méditations pour la possibilité de s'aligner à son vortex, pour être vraiment aligné à l'être, vous voyez, là, on décolle, hein, on est sur France Culture, qui serait là-haut, qui serait resté là-haut, qui a quelque chose qui serait resté là-haut. Voilà, je ne développerai pas plus. Chers amis auditeurs, vous nous comprenez. On ne va pas aller trop loin non plus. Eh bien, moi, ça me parle. Cette méditation guidée-là, qui dure 15 minutes, bah, quand quelqu'un me parle, je me laisse partir tout seul. J'ai plus de mal. Voilà. Mais alors, vous êtes très doué pour ça, vous, Emmanuel. Vous arrivez à le faire dans le silence, c'est ça, Emmanuel ?
Alors, très douée, je ne sais pas si je suis très douée, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, ça fait à peu près plus de 8 ans que je pratique, et pas forcément au quotidien. Et ça s'apprend aussi de manière non formelle. Je peux être en train d'éplucher mes légumes, hein, et en pleine conscience, c'est une forme de méditation aussi. Marcher en pleine conscience, donc c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années, en fait, en pratiquant.
Eh bien, écoutez, bravo. Olivier, vous en pensez quoi de ça? Évidemment, c'est comme tout, l'expérience, l'expérimentation, le temps, la pratique, évidemment, améliore, ou pas d'ailleurs, mais améliore forcément sa pratique des mantras, c'est par la répétition.
Oui, c'est essentiel la pratique, on en parlait un petit peu en début d'émission, c'est absolument essentiel. Si vous faites un petit peu de pratique de temps en temps, ou que vous arrêtez au bout d'un certain temps, vous ne verrez pas les effets, ou très peu d'effets. Et vous ne découvrirez pas tout ce qui se cache derrière une pratique persévérante que l'on a poussée pendant des mois, voire des années, voire des dizaines d'années. Et plus vous avancez, il y a un chiffre qui a été annoncé que je trouve absolument faramineux, je ne sais pas comment on a trouvé ça, mais on a dit... que la maîtrise s'atteint lorsqu'on a pratiqué 10 000 heures. Voilà,
le chiffre des 10 000 heures. Ça, je peux vous dire ce que c'est, puisque c'est la théorie des 10 000 heures de Anders Ericsson. Ericsson était un grand chercheur, toujours vivant, je crois d'ailleurs, suédois. Et il a voulu voir à quel niveau on atteint un certain niveau, pas forcément d'excellence, mais d'un bon niveau de capacité. Alors, la théorie des 10 000 heures, chers auditeurs, 10 000 heures. Alors, ce qu'a fait Ericsson, c'est très simple. Il a pris des musiciens de haute voltige, même quand ils démarraient, puis après il a vu leur niveau, il a pris des violonistes, vous y référiez au piano, il a pris des sportifs aussi, hein, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif. 10 000 heures, chers amis auditeurs, à raison de 8 heures par jour, ça fait 5 ans d'une vie quand même. Hein. Bon. Et la théorie des 10 000 heures dit que quand tu as atteint 10 000 heures dans n'importe quelle activité, tu as déjà un certain niveau. Parce qu'il ne veut pas dire que tu es un génie. Je veux dire, on pense par exemple, et d'ailleurs ce serait intéressant de le savoir pour les bouddhistes, les sœurs Williams, tout le monde voit les sœurs Williams, Serena et Vénus, hein, on connaît la méthode Williams, c'est un film qui est sorti sur Netflix, le père a voulu en faire des graines de championne. Bon, elles ont commencé enfant le tennis à 2 ans et demi, 3 ans, hein. Elles étaient avec une raquette qui était presque plus haute qu'elles. C'est-à-dire que les filles Williams ont leurs 10 000 heures de tennis, chers amis auditeurs, à 7 ans. À 7 ans. Alors ça pose aussi une question beaucoup plus intéressante aussi. C'est-à-dire quand tu commences une pratique jeune, que ton cerveau le commence jeune, et là on est dans les neurosciences, inévitablement, c'est valable pour Rafael Nadal. Rafael Nadal, il n'a pas commencé le tennis à 14 ans. Il a commencé avec son oncle à 5 ans. Bon, ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui commencent à 3 ans deviendront des Nadal ou des Serena. Ça, c'est clair que non. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde aussi qui a les 10 000 heures devient en Ligue 1 ou un grand violoniste de concert, je veux dire, ou un immense pianiste de concert. Mais volins nolins, je pense que quand on commence enfant, et là, on a une grande hypnothérapeute avec nous sur le plateau, n'est-ce pas, Irène? Un cerveau d'enfant qui grandit dans une pratique. Peut-être que c'est 4 petits bouddhistes, qui le petit moignon qui commence à 4 ans, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Inévitablement, le cerveau commençant enfant, Irène Cazenave, ça fait quelque chose qui fera la différence.
Alors oui, de toute façon, ça fera en tout cas un moment la différence. Et puis, il y a aussi la passion et un moment l'individu. Est-ce qu'il est dans sa... Je vais relancer. Est-ce qu'il est dans sa mission de vie? Est-ce qu'il est dans sa mission de vie? Parce que quelquefois, on va faire du sport très jeune, je pense du sport ou de la musique ou peu importe, très jeune, pour faire plaisir à papa, à maman qui n'a peut-être pas pu... être sportif ou musicien de talent et qui transfère ça. Mm-hmm. Donc il y a cette question, est-ce que ça correspond aussi à la mission de vie de l'enfant ? C'est peut-être ça aussi qui fait la différence à un moment où il y a la pratique et puis... On en parlait par rapport à ces différentes pratiques. Je vais revenir sur la méditation. Il y a des choses qui peuvent correspondre à une personne à un moment, moins correspondre à une autre. Il y a des gens qui ont besoin plus d'être dans une attention peut-être individuelle, d'autres gens qui ont vraiment qui ressentent beaucoup plus, beaucoup plus fort cette magie du groupe. Donc c'est vraiment de sentir que chaque personne puisse sentir ce qui est juste pour elle, sachant que on peut aussi à certains moments pratiquer quelque chose et puis pratiquer autre chose à un autre moment en fonction de notre maturité, en fonction de plein de choses.
Olivier, vous connaissez des gens qui ont commencé vraiment très 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 jeunes à pratiquer les mantras ? Peut-être que vous en avez croisé en Inde, non ? Ou lors de vos différents multiples voyages ?
Pas à ma connaissance, mais ceci étant, moi, dans ma propre expérience, étant tout à fait d'accord avec cela, je me suis dit que quand j'ai eu des enfants, je voulais les mettre dedans dès le berceau.
Vous avez des
donc,
enfants ?
Oui, j'ai deux enfants.
Et
j'ai
là,
deux
les
filles,
amis, à quel âge ?
De 9 ans, ah bah, avant la naissance.
Avant la naissance,
avant la naissance on a commencé à chanter des mantras pour elles.
Avec votre épouse ?
Avec ma compagne, effectivement. Ouais. Et ensuite, après, lorsqu'elles étaient petites, la berceuse du soir était remplacée par des chants de mantras.
Et alors ? Et là, ils ont quel âge maintenant, les enfants ?
Elles ont 9 ans et 11 ans.
Et est-ce qu'elles pratiquent les mantras ?
Elles ne pratiquent pas les mantras, mais elles ont une certaine sensibilité intérieure, une certaine fraîcheur. Elles ne sont pas des méditantes, mais on sent qu'il y a une grande ouverture, qu'il y a quelque chose de très beau, qu'elles ont été très préservées. Je ne sais pas si c'est lié à ce qu'on a fait, mais en tout cas, c'est là.
Mais elles savent que maman fait
tout
comme
fait.
Papa aussi, elles pratiquent beaucoup.
C'est différent. Il faut autre chose, oui.
Oui, d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est intéressant que vous ayez référé à la théorie des 10 000 heures parce que c'est évident. Et moi, encore une fois, je suis persuadé que pour un sport dans lequel je suis entièrement d'accord, Irène, on est en phase avec sa mission de vie, aligné à sa mission de vie. De toute façon, on ne devient pas Nadal si on n'est pas aligné à sa mission de vie. Mais après, on peut être aligné à sa mission de vie et c'est une histoire de taille de bateau. Mon prof de tennis... qui est 15-4 ou 15 à Saint-Nois, il est aligné à sa mission de vie aussi, mais il n'avait pas le génie de Nadal. Après, il y a aussi la zone de génie, à quel degré tu as du génie ou pas. On voit bien que dans toute activité, volins, non-lins, il y a les médiocres, les moyens, les passables, les charlatans, les mauvais, les nuls, les très bons, les excellents, et puis les génies. Ça, c'est valable pour toute activité humaine. Tout le monde n'est pas Nadal. Tout le monde n'est pas Serena Williams. Même
et tout le monde n'a pas envie de l'être non plus, parce que peut-être
l'être.
Que votre professeur de tennis, il était très heureux d'être professeur de tennis.
Oui, enfin, là, je mettrai un bémol, Irène. Je pense que Volins Nolins, les coachs américains nous disent qu'il y a 5 versions de soi-même. Moi, j'ai un petit côté, malgré le fait que j'ai fait mes humanités, j'ai un côté West Coast aussi, Tony Robbins, Marshall Goldsmith, c'est bon, on m'appelle le Tony Robbins français quand même. Hein. Voilà, faut que je me pose là. Et Volins Nolins, je pense que tout le monde n'est pas la première version lui-même. D'après eux, il n'y a que 10% des humains qui sont la première version de soi-même parce que ça impose énormément de rigueur d'être la première version de soi-même, énormément d'autodiscipline d'être la première version de soi-même, énormément aussi de renoncement d'être la première version de soi-même, énormément de travail, de volonté, de rage d'être la meilleure version. Vous le savez, vous êtes la meilleure version de vous-même, Olivier aussi, et c'est pas tout le monde qui est la meilleure version de soi-même. Je veux dire, pour être la meilleure version de soi-même, il en faut quand même. Et donc, peut-être que lui... Je vais vous raconter une anecdote. Vous parlez de mon prof de tennis. Personne ne le connaîtra. Personne ne connaît mon club de tennis. Donc voilà, c'est très amusant ce que vous dites, Irène. Il nous l'a dit qu'il rêvait de faire Ligue 1. Vous savez, toute personne qui a un peu de talent dans un sport, quand il a 6, 7, 8 ans, il veut devenir Mbappé. On dit Mbappé, paraît-il. Je l'ai entendu ce matin. On dit, tout le monde veut devenir Mbappé. Des Mbappé, il y en a dans tous les clubs de toutes les banlieues. Évidemment, des Mbappé, il n'y en a qu'un. Mais tout le monde veut l'être. Et donc, lui, il voulait devenir Connors, Lendl ou ce que vous voulez, ou Borg. Mais la vraie question, à un moment donné, je crois, hein, c'est terrible. L'anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans, c'est incroyable. Et ça veut dire la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième version de soi-même. Elle est assez terrible, cette anecdote, mais voilà. Parmi nos auditeurs, personne ne le reconnaîtra. Un jour, il y a 2 ans, je vais au Décathlon à côté de chez moi. Bon. Et je voulais acheter de nouvelles raquettes de tennis. Et qui je vois au rayon tennis des raquettes, cordant les raquettes, mon prof de tennis. Et dans ses yeux, je suis coach, je suis psychosociologue, je suis formateur depuis 30 ans, j'ai vu de la honte. Alors, dès qu'il m'a vu, j'ai vu de la honte. Je me suis dit, mais pourquoi a-t-il honte ? En plus d'être prof de tennis, il a aussi un CDI peut-être, ou en tout cas, il est aussi salarié au rayon tennis de Décathlon. Et alors ?
ça nourrit la famille et c'est lié à son métier. Mais c'est sûr qu'à 40 ans, si à 6 ans, comme Nadal, il se rêvait d'avoir gagné Roland-Garros, tu la voyais pas comme ça ta vie, tu la voyais pas comme ça frérot, c'est pas toi qui y es, c'est pas toi qui es beau. On pense au bagad de Langby, ouais, il a pas raté sa vie. Il est prof de tennis et en même temps, il est salarié au Décathlon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça questionne seulement. Vous voyez, Irène, qu'est-ce que ça vous fait quoi comme écho, l'anecdote que je raconte ?
Mais ça fait qu'il y a peut-être qu'un de ses collègues, lui, est très heureux de corder les raquettes.
Mais lui aussi, peut-être.
Il y a des gens qui sont très heureux. Après, il y a aussi cette honte, peut-être, que lui n'est pas OK avec ça. Et il y a un moment où il y a différents choix. C'est soit on est dans la gratitude de ce qu'on a et on se dit, bah, voilà, j'ai un CDI plutôt dans le domaine que j'aimais bien. Soit, effectivement, il y a un moment, un choix à faire de se dire... Je ne suis pas heureux d'être là, comment je fais pour aller ailleurs ?
Olivier Vinet.
Il y a un domaine intéressant aussi dans lequel on commence à rentrer, c'est le domaine des blessures. C'est-à-dire que dans tout travail méditatif, on est amené nécessairement à être confronté à soi-même avec ses qualités, mais aussi ses failles. Et peut-être que, je ne connais pas cet enseignant, mais peut-être que lui-même avait cette honte, mais ça n'empêche pas nécessairement qu'il était là à sa place,
exactement,
qu'il était peut-être très content de ce qu'il faisait, mais qu'il y avait cette honte. Et le travail qu'on fait en méditation, nous aussi dans les mantras, et puis avec les techniques que vous-même faites, c'est un travail qui agit sur nos blessures, et qui petit à petit nous ramène à la guérison. Et c'est intéressant de toujours voir, vous avez plein de gens comme ça, des gens qui sont très avancés dans leur domaine, qui sont tout à fait à leur place, et qui pourtant ont encore, parce que nous sommes tous humains, des blessures.
Eh bien, on va vous remercier d'avoir participé à l'émission, Emmanuel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup et continuez vos pratiques. Emmanuel. À très bientôt.
Merci, bon après-midi.
Au revoir.
Au revoir.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère, l'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement. Du temps qui passe, presque en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Tout simplement, fermé pour cause de sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête, change tout vraiment. sur la pointe du cœur, tu n'es là pas. Tout simplement, choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermez vos pas et sentiments différents. Reviendrez peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur.
Tout doucement, quelle merveilleuse chanson pour nous arrivons en fin d'émission. Nous sommes toujours avec Olivier Vinet pour parler des mantras, pour parler aussi de son mentor que fut Andreas Mamet, qui est parti du Covid, mais la vie continue, n'est-ce pas? Vous nous disiez que vous l'avez tout accompagné, tout le groupement, en chantant des mantras pendant une semaine.
Pendant son coma,
2021,
effectivement.
Et vous dites qu'il est toujours avec vous.
Oui.
Comme ça me fait penser qu'on va faire un petit salut à cet immense homme que j'admirais tant, qui était Monsieur Feu Robert Badinter, qui dans une grande allocution nous disait « Les morts vous écoutent, les morts vous écoutent ». Et oui, les morts sont là, les morts sont pas morts, les morts sont ailleurs. Je ne sais plus qui disait ça, les morts sont ailleurs. Et donc vous le sentez toujours présent, Andreas Mamet, graine d'éveil.
Régulièrement, oui.
Et vous arrivez avec lui, le sous-titre, vous avez bien aimé Irène, hein, pour occidentaux désorientés, à réorienter nos occidentaux si déboussolés.
C'est pas moi, c'est chacun qui fait son travail. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on donne des clés à chacun, et chacun ensuite se prend en main, devient autonome, et apprend par lui-même, avec sa boîte à outils personnelle, à reprendre son pouvoir, à redevenir lui-même, à enlever tout ce qui fait qu'on n'est plus nous-mêmes, enlever toutes ces couches, vous savez, l'analogie de l'oignon, elle est très très bonne, toutes ces couches autour du cœur de l'oignon, ben c'est ça ce qu'on fait en méditation, en mantra et dans toutes les autres méditations. On enlève petit à petit les couches. D'abord, on est sur les couches superficielles, les choses plus évidentes, les choses plus grossières, et petit à petit, on se rapproche du cœur, et on se rend dans des dimensions plus subtiles, plus invisibles, plus profondes. On va chercher dans les couches de l'inconscient. Là, c'est intéressant aussi.
Irène, la métaphore de l'oignon?
Mais complètement, parce qu'il y a cette, il y a aussi cette question même de la voix ou de chanter avec ces mantras où quelquefois on sent que, même je vais le dire de façon plus triviale, où ben, la voix est coincée, elle a du mal à sortir, etc. Et je pense qu'il y a un moment où de retrouver ce canal-là, c'est déjà faire passer des blessures, s'autoriser aussi à s'exprimer, à prendre sa place, à prendre sa place dans un groupe. Rien que ça, d'une façon, on va dire, très trivial, c'est énorme, et ne serait-ce que ça peut guérir des blessures. Alors peut-être les blessures effectivement les plus évidentes. La question que j'aurais par rapport à ça, c'est comment j'essaye de formuler la question, excusez-moi, mais c'est comment vous faites avec les gens qui ont envie, mais d'emblée bloquent sur le fait d'être en groupe, de chanter? Est-ce qu'il y a, une espèce de pré-contact ou de pré-méthode pour amener les gens qui auraient peur de se retrouver dans un groupe?
Olivier Vinet.
Pas nécessairement. Je pense que c'est encore une fois à chacun de se prendre en main. Les personnes qui se sentent à leur place dans le groupe sont les bienvenues. Celles qui ne se sentent pas à leur place, il n'y a aucun souci. C'est totalement normal. On est tous des êtres humains différents. Il existe plein de techniques de méditation et chaque technique de méditation a sa valeur pour certaines personnes. Les mantras ne sont pas faits pour tout le monde, il faut clairement le dire. Donc les personnes qui ne se sentent pas à l'aise, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regrouper des personnes qui ont envie de pratiquer, qui sont appelées par ça, qui se sentent à leur place,
un appel.
Là. Et j'aspire pas nécessairement à avoir des très grands groupes. Ce serait formidable pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais ceci étant, avec un groupe de 5 personnes ou de 10 personnes, on s'est déjà retrouvé avec Andreas. On a eu tout un parcours international. On a eu une interview sur France 2. On a fait une intervention au Grand Rex, etc. Donc on a eu pas mal de circonstances intéressantes qui nous ont permis d'étudier l'impact des mantras dans différents milieux. Et on s'est aperçu, notamment dans une tournée en Belgique, à Namur, on avait eu 65 personnes qui étaient venues. Mais on ne sait pas pourquoi, on pense que le centre a fait une erreur de communication. Les personnes qui étaient là n'étaient pas vraiment à leur place. Une grande majorité des personnes n'étaient pas vraiment à leur place.
Donc elles étaient plutôt réfractaires.
Mais il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Et donc on s'est rendu compte qu'on a eu des stages où il y avait très peu de personnes, moins de 5 personnes, 3, 4, 5, mais des personnes dédiées. Et qu'on avait plus d'énergie à pratiquer des mantras avec des personnes dédiées, même peu nombreuses, que à pratiquer avec 65 personnes, mais qui n'étaient pas venus là pour les bonnes raisons et qui n'étaient pas à leur place, tout simplement. Ce qui nous ramène à la notion de quantité et de qualité. L'essentiel, c'est la qualité. Si on a la quantité en plus, formidable. Mais l'essentiel, c'est la qualité.
L'essentiel, c'est la qualité. On va peut-être finir sur cette magnifique pensée qui me fait penser à cette magnifique autre pensée d'Einstein qui disait « Tout ce qui compte ne peut pas être compté, tout ce qui peut être compté ne compte pas toujours. » Olivier Vinet, on va vous remercier. Si les gens veulent pratiquer avec vous les cercles, on vous retrouve vous sur internet alors
oliviervinet.fr, tout simplement.
Et là, on voit toutes vos propositions.
Voilà,
merci,
toutes les deux semaines, tous les vendredis.
Merci.
Vous pouvez nous rappeler cette magnifique phrase de Camus.
C'est une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai envie de dire, c'est un filtre quand on se parle à soi-même ou même quand on parle aux gens qu'on aime. La vérité, ce sont les choses gentilles que me disent les gens qui m'aiment.
Mon Dieu, comme j'en ai besoin aujourd'hui. Et franchement, merci, toute notre gratitude d'abord pour vous, Olivier, mais pour vous, Irène, pour cette magnifique phrase qui résonne bien. Merci à Julien qui a réalisé l'émission, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à tous les auditeurs qui ont amené leur énergie, leurs questions, leur lumière. On finira par cette phrase d'un grand musicien, puisque tout finit en musique. Jimi Hendrix qui disait « Quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, l'humanité connaîtra enfin la paix. » Est-ce un vœu pieux ? En tout cas, on œuvre pour ça. À la semaine prochaine, on vous embrasse.
Pour vivre heureux, vivons coachés. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.